Alors bienvenue pour cette troisième vidéo de restructuration sur les applications dans les espaces de Banach et les équations différentielles ordinaires. Donc dans un premier temps, pour les applications, nous avons vu deux types d'applications. Il y a les applications linéaires continues et les applications non linéaires. Donc il faut déjà distinguer face à une application dans quelle situation on se trouve. Pour les applications linéaires continues, la première chose, donc on va regarder si on a un opérateur qui va être borné d'un espace dans un autre. Donc ça, cet espace L de V et W, c'est vraiment l'ensemble des opérateurs bornés. Je rappelle que les opérateurs bornés sont de manière continue équivalents et ça revient vraiment à avoir une majoration du type AX dans W est plus petit que C fois la norme de X dans V. Voilà, donc là, nous avons discuté dans des précédents amphis de restructuration diverses techniques pour prouver ce genre de choses. Ici, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on rappelle que la norme est importante et qu'il existe des applications linéaires qui ne sont pas continues. Donc on va se concentrer plutôt sur les applications non linéaires, du coup sur un espace vectoriel norme EV. Ce qui est important, c'est de remarquer que ces applications non linéaires sont... on va considérer une classe particulière qui sont les applications qui sont contractantes. Et ça va se passer sur un sous-ensemble Z. Donc j'ai bien un sous-ensemble et pas un sous-espace vectoriel. Donc c'est vraiment un sous-ensemble. Donc typiquement, ce qui est écrit en bas, ça va être le cas d'une boule fermée. Éventuellement tout l'espace, mais c'est parfois difficile d'être contractant sur tout l'espace. Et donc le cas d'application typique, ça va être une boule fermée, qui est bien un ensemble et pas un espace. Donc la définition d'être contractant, c'est de dire que l'application A, ici, réduit les normes par un facteur alpha. Donc ce sont vraiment des applications qui vont d'un espace dans lui-même. Voilà, et donc le théorème important qui est, c'est l'existence et l'unicité d'un point fixe, c'est dans le cas où on a un espace de Banach et que l'ensemble Z est fermé. À ce moment-là, on a un unique point fixe dans Z. Donc quand on souhaite appliquer ce résultat, il faudra toujours vérifier au préalable que 1, nous sommes dans un espace de Banach, et que 2, l'ensemble que l'on considère est fermé. Et toujours dans cet ordre-là. Donc ensuite, on va passer aux équations différentielles ordinaires. Donc là, ce qui est important pour les équations différentielles ordinaires, c'est qu'on considère ce problème de Cauchy, y point égale f de ty. Et tout ce que je vais dire dans les transparents suivants vont être pour une telle équation différentielle. Donc on part d'une condition initiale y de 0, et puis on va itérer en temps une trajectoire pour laquelle, ici, la dérivée en tout point va être donnée par f de ty de t. Voilà. Ça va faire une certaine trajectoire jusqu'à un temps final y de grand t. Éventuellement, on peut avoir une équation qui n'existe qu'en temps fini, éventuellement, et puis dans certains cas, ça peut être en temps infini. Donc le théorème du Cauchy-Lipschitz qu'on a vu, c'est pour existence unicité de solution en temps fini, non nul. Et donc il y a deux hypothèses importantes sur le champ de force. Tout d'abord, qui doit être globalement continu, et puis par ailleurs, qu'il doit être uniforme, il doit être, ici cette condition-là, il doit être lipschitzien par rapport à la variable spatiale, uniformément par rapport à la variable de temps. Et donc ça, la manière dont c'est dit, tout ça c'est local, ça veut dire qu'en fait c'est uniforme en temps dans un petit intervalle autour du temps T0, et c'est lipschitzien aussi localement en espace, ça veut dire dans une boule centrée autour de la condition initiale. Donc si on a toutes ces conditions, on a existence et unicité d'une solution locale. Et donc après, on peut avoir une solution globale. Il y a des éléments de complément dans le polycopier. Éventuellement, on peut avoir une explosion en temps fini, comme c'est le cas pour l'équation différentielle y point égale y carré que vous allez étudier en TP. À présent, schéma numérique. Donc je vous fais... il est très important d'avoir en tête le petit dessin suivant. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire de référence qui commence au point y de 0 égale y 0. Et ensuite, on a une trajectoire de référence qui va s'arrêter à un y de grand t. Et donc là, on peut regarder différents points intermédiaires qui vont être y de 2 delta t, y de 3 delta t, qui vont être des temps comme ça le long de la trajectoire. On va par ailleurs chercher à approcher cette trajectoire exacte par une trajectoire numérique grâce à une méthode numérique qui, partant de y0, va nous donner une approximation y exposant 1 de la première pardon, une y exposant 1 de y de t1. Puis ensuite, on va repartir de là, on va avoir une approximation temps 2. Ici, on va avoir un y3 qui va être une approximation de y3 delta t, etc. etc. jusqu'à une approximation finale. Et donc, l'objectif là des théorèmes qu'on va voir, ça va être de quantifier l'erreur que l'on fait sur ces schémas numériques, ça veut dire quelle est l'erreur maximale que l'on fait entre un point ici et son approximation numérique, comme ça au cours du temps. Donc pour quantifier cette erreur, la première chose c'est qu'en schéma numérique, on va l'écrire sous cette forme-là. Donc c'est un algorithme, une méthode qui va vous donner l'approximation yn plus 1. Donc ça, c'est une approximation, parce qu'en tout cas, on en voudrait que ce soit une approximation de y au temps tn plus 1. Ici, je considère des algorithmes avec un pas de temps fixe, donc tn, c'est un multiple d'un pas de temps de base. Donc l'approximation au nouveau point, c'est l'approximation au point précédent, yn, plus une certaine fonction d'incrément. Cette fonction d'incrément, elle va être extrêmement importante pour l'analyse du schéma numérique. Donc il faudra commencer par toujours bien écrire qui est la fonction d'incrément. Ça peut être très facile pour les schémas explicites. Mais par contre, ici, là, cette relation-là, c'est difficile pour les schémas implicites. Enfin, difficile. En tout cas, ce n'est pas toujours très évident d'écrire la fonction d'incrément dans le cas des schémas implicites. On a vu un exercice dans le cours aujourd'hui sur le schéma d'Euler implicite. Je vous incite vivement à regarder l'exercice 5.4 sur la méthode des trapèzes et la méthode du point milieu pour vérifier que vous avez bien compris. Ensuite, l'analyse de convergence, il va y avoir deux parties. Il va y avoir une analyse de consistance qui vous dit essentiellement l'erreur que vous faites sur un seul pas de temps. Donc là, par exemple, je vous mets un point y de tn le long de la trajectoire exacte. Partant de ce point y de tn, je vais obtenir un nouveau point que j'ai mis ici avec cette croix. Et je vais me demander à quel point il est différent de y de tn plus 1. Et ici, l'erreur qui apparaît là, c'est par définition l'erreur de consistance delta t fois eta n plus 1. Ici, peut-être je vais vous la mettre en rouge. Cette erreur, ici, entre ces deux points, c'est l'erreur de consistance. Donc l'erreur de consistance, c'est l'erreur qu'on fait sur un pas du schéma numérique en partant de la solution exacte et on compare ce que donne le schéma numérique, qui est cette quantité-là, qui est ma croix sur le dessin de gauche, et on compare à la solution exacte. Et ici, j'ai renormalisé par delta t de manière à comprendre eta comme étant une erreur par unité de temps. Donc au point de vue méthode, c'est un point de vue très important, c'est très très important. Je le détaille dans les corrections vidéo d'exercice que je vous incite vraiment à regarder sur cet exemple. Point de vue méthode, donc il faut d'abord commencer par identifier la fonction d'incrément, ici pour montrer la consistance. Deuxième chose, il faut écrire l'erreur de consistance eta n plus 1 égale. Et attention, dans cette erreur de consistance, je ne veux voir que la solution exacte au temps tn. Je ne veux surtout pas voir de y exposant n, qui serait la solution du schéma numérique, parce que dans l'erreur de consistance, c'est l'erreur qu'on fait en partant de la solution exacte sur un seul pas de la méthode numérique. Donc je ne veux voir vraiment que du y de tn. Et puis ytn plus 1, évidemment, puisque c'est la référence. Donc on écrit qui est l'erreur de consistance. Et la troisième étape, c'est de se dire à quel ordre je dois développer mes différentes formules. Donc ici, je veux une erreur qui est d'ordre delta t à la puissance p. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le numérateur, il faut que je fasse des développements où à la fin, il reste un terme en delta t puissance p plus 1, puisque je divise par delta t. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je développe ytn plus 1 à l'ordre, avec un reste d'ordre delta p plus 1, et il faut que je développe ce terme-là, donc la fonction d'incrément, avec un terme qui va être d'ordre delta t à la puissance p. Donc c'est très très important de commencer par vérifier à quel ordre je dois développer les différents termes du numérateur avant de commencer vraiment à développer ces termes-là. Donc là, une fois que j'ai écrit, donc au point de vue méthode, je reprends sur la droite, donc quand j'ai écrit l'expression de eta n plus 1, je rappelle le développement limité de y de tn plus 1 que nous avons vu dans le premier exercice aujourd'hui, à l'ordre 2. Et en 4, je développe phi delta t égale, et puis quelque chose qui va jusqu'alors delta t à la puissance p. Et attention, vraiment delta t à la puissance p. Et ici, le p qui apparaît suffit si je veux montrer que la méthode est d'ordre p. Voilà. Et donc pour cette dernière étape, pour le développement de la fonction d'incrément en puissance delta t, je vous suggère fortement de le faire sur une version phi delta t, une fonction d'incrément qui dépend de t et d'une variable d'espace z qui serait une variable d'espace générique, de manière à ne pas faire de faute entre y de t n plus 1 et y exposant n. Donc ça, c'est pour la consistance. J'identifie donc la fonction d'incrément, j'écris l'erreur de consistance, je rappelle le développement en puissance de delta t de la solution exacte, et je fais ensuite un développement en puissance de delta t de la fonction d'incrément. Et de manière à obtenir un grand taux de delta t à la puissance p à la fin. Ensuite, pour la stabilité. Donc la stabilité, c'est une robustesse par rapport à l'accumulation des erreurs. Donc il y a des erreurs qu'on fait tous les pas de temps, même si on partait de la solution exacte. Et la stabilité, en fait, c'est de se dire que non seulement au premier pas de temps, donc il y a eu juste l'erreur de consistance, et au deuxième pas de temps, en fait, je fais deux erreurs. La première chose, donc quand je pars de y1, la première chose, c'est que je ne pars pas, enfin, c'est que je fais une petite erreur par rapport à une intégration exacte. Et la deuxième chose, c'est que je pars déjà pas du bon endroit. Et donc la stabilité, ça va caractériser ça, cette accumulation des erreurs, le fait qu'on part déjà pas du bon endroit et qu'on ajoute une petite erreur. Le poly a une petite discussion après la remarque 5.5 sur ce sujet. Et ça vous montre que, en fait, pour la stabilité, il ne faut surtout pas passer par la définition. Il faut utiliser ce critère, cette condition suffisante de stabilité, qui est qu'il suffit que la fonction d'incrément soit globalement lipschitzienne pour qu'on ait un schéma qui soit stable. Donc là, la preuve repose sur un lemme de Grandval discret, qui est l'exercice 5.5 que je vous laisse regarder. Donc en pratique, on va toujours vérifier la condition de stabilité sous cette forme-là. Du point de vue méthode, comment est-ce qu'on fait pour vérifier la condition de stabilité ? Donc, hop, ici, méthode. On va donc toujours... on a déjà identifié la fonction d'incrément. Et donc ici, c'est donc 1, identifier grand phi, indice delta t. Et puis 2, bah, on va considérer vraiment la différence phi t y1 moins phi t y2. Et on va utiliser des inégalités triangulaires. Et puis le caractère et le fait que f soit lipschitzienne. C'est essentiellement les deux éléments et les deux seuls éléments qui servent. Donc ce sont des calculs assez algébriques qui sont simples quand la méthode est explicite. La difficulté, c'est quand la méthode est implicite. À ce moment-là, et en fait, il faut à droite pour les méthodes implicites apparaît aussi une différence entre phi delta t t y1 moins phi delta t t y2. Et à ce moment-là, en fait, il faut prendre cette quantité qui est à droite, la basculer à gauche. Et du coup, on se retrouve avec des conditions de stabilité conditionnelles. Donc, ça veut dire que pour des pas de temps qui sont assez petits. Donc là, je vous incite vraiment à regarder la vidéo de correction de l'exercice 5.7. Bien. Et donc, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a consistance et stabilité, on a directement convergence grâce à ce qu'on appelle un métathéorème de l'analyse numérique, c'est-à-dire un théorème qu'on voit dans plusieurs contextes. Et ici, on voit dans le contexte des équations différentielles ordinaires. Donc, à partir du moment où votre erreur sur chaque pas de temps tend vers zéro et que vous avez une méthode qui est stable, l'erreur globale le long de la trajectoire, donc l'erreur qui est en bleu, donc l'erreur qui est en bleu et puis celle qu'on a à tous les instants, celle-ci converge vers zéro quand le pas de temps converge vers zéro. Alors, dernier élément, un mot d'organisation sur ce qui est à venir. Donc, on a un examen partiel qui est, je rappelle, le lundi 4 novembre à 9h15. Pour ceux qui d'entre vous qui seront en caco, je vous conseille fortement de prendre un pull parce qu'il fait souvent froid en caco, notamment le lundi matin après les vacances. En tout cas, ça a pu arriver dans le passé, donc ayez-en un au cas où. C'est pas le cas toutes les années, mais... Et regardez bien où vous êtes parce qu'il y en a qui sont en salle de cours et d'autres qui sont en caco. Le contenu des examens, c'est sur les 6 premières séances et toutes les 6 premières séances. Je vous encourage à regarder les sujets d'examen des années passées pour voir à quoi ça ressemble un examen, le volume de questions. Et je vous incite aussi à regarder le corrigé, les corrigés qui sont mis en ligne. Donc corrigé en ligne, ça c'est je dirais vers le 30 octobre. Je ne les mets pas en ligne tout de suite parce que je veux que vous cherchiez un petit peu avant, que vous, vraiment que vous peignez, que vous ayez des difficultés, comme ça vous apprécierez mieux la solution. Quand vous, si je vous donne la solution trop tôt, en fait, vous allez la lire, vous dire que ça a l'air facile et en fait, éventuellement, vous ne verrez pas la difficulté et donc, en fait, ce ne sera pas productif. Ma suggestion aussi, pour bien réviser l'examen et avant de faire les sujets pour vous entraîner, c'est que vous refaites, vérifiez que vous savez faire tous les exercices obligatoires. Donc, l'examen utilisera les définitions et théorèmes du cours, mais utilisera aussi les techniques et les résultats des exercices obligatoires. Je pars du principe que vous connaissez bien tous vos exercices obligatoires et que vous pouvez mobiliser les compétences que vous avez acquises dans ces exercices de manière très rapide. Donc vraiment, il faut que vous les ayez absolument en tête. C'est la première chose à faire pour réviser l'examen. Donc ce sera noté sur 20 et je rappelle que ça vaudra 6 points dans la note finale. Donc vous avez droit aux documents du cours, c'est-à-dire le poli et les notes personnelles, c'est-à-dire les corrections manuscrites des exercices et ou des versions imprimées de ces corrections. Et donc pas de calculatrice ou de téléphone, ça ne sert à rien pour un examen de maths. Pour le rendu des TP, donc je rappelle que c'est dans la copie d'examen et donc je les veux le matin même. Une chose qui est importante, c'est que, je l'écris là, il ne faut pas imprimer des choses la veille au soir, ne pas imprimer la veille, et pire, évidemment, le matin même de l'examen. Mais bon, pas imprimer la veille, c'est-à-dire que toutes les années, les étudiants rentrent de vacances et me disent « Ah monsieur, j'ai essayé d'imprimer, ça ne marchait pas, je n'ai pas eu le temps, etc. » Et donc, je l'ai mal rendu. C'est à vos risques et périls. Je mets le TP est noté sur 2, ça veut 2 points à la fin. Pour des mauvaises figures, des choses brouillonnes, j'enlève très volontiers la moitié des points. Donc là, vous avez eu les sujets ce matin, vous avez 2 semaines pour faire le TP. C'est à vous de vous organiser pour que tout soit rendu de manière nette et propre. Enfin, vous avez même plutôt 3 semaines. Pour que tout soit rendu de manière nette et propre le jour de l'examen. Donc le compte-rendu est individuel, même si vous faites le travail à deux. Et donc, il faut écrire du texte. Je ne veux pas que des formules. Il faut me mettre de belles figures. Donc une figure, je rappelle, c'est quelque chose avec des noms sur les axes, sur le nom des axes des abscisses et le nom des axes des ordonnées, avec des flèches, des zéros. Puis vous mettez des points, vous reliez. Enfin voilà, quelque chose qui ressemble vraiment à une figure. Vous pouvez le faire informatiquement, bien sûr. Vous pouvez aussi simplement faire une figure à la main pour éviter les problèmes informatiques. Voilà. Et puis éventuellement, vous mettez des tables de résultats. Et puis à la fin, vous mettez bien le script du code pour que je vois comment vous avez codé et que je puisse vous poser des questions dessus. Je vous rends aussi attentif au fait qu'il ne faut pas tenter de présenter des résultats faux ou des résultats en tout cas auxquels vous ne croyez pas. Donc, toutes les années, j'ai des courbes de convergence pour les ordres qui ne montrent pas vraiment que la méthode est d'ordre 1. Donc, quand vous-même vous doutez de vos résultats, dites-le. Et surtout, si vous doutez de vos résultats, tournez-vous vers votre enseignant pour qu'il vous aide. Évidemment, se tourner vers son enseignant la veille du rendu n'est pas une bonne chose. Mais si vous commencez dès maintenant à faire le travail et que vous butez dessus, vous pourrez demander de l'aide en temps et en heure et du coup bénéficier d'un retour qui vous fera progresser dans votre compréhension, vous aidera à avoir une meilleure note. Et donc, pour ça, notamment, il y a une séance TPA du jeudi 24 octobre. Et je vous incite très fortement à y aller pour discuter de la question 4 du TP, notamment, qui est l'implémentation des schémas implicites. Évidemment, pour discuter de la question 4, il est mieux d'avoir fait les questions 1 à 3 au préalable. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon travail pour l'examen. Je vous incite à contacter votre chargé de groupe si vous avez des questions sur le cours ou sur les TP, et pas directement à l'enseignant responsable. Moi, je ne réponds qu'aux gens de mon groupe, et sinon, vous tournez votre chargé de TD en première intention.